Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, en République démocratique du Congo, on estime à plus de 60 000 le nombre des Centrafricains qui se sont réfugiés à Zongo, dans la province de l'Équateur. Parmi ces réfugiés, on retrouve des enfants, des jeunes qui ont abandonné leurs études. Alors, comment assurer leur formation, leur éducation dans ces camps, et que faire pour leur venir en aide? Et la grande question qu'on se pose, est-il possible de pouvoir organiser l'éducation des enfants dans ces conditions, avec tous ces traumatismes, avec tout ce qu'ils ont vu, entendu, subi? Céline Smith est porte-parole du HCR, RDC. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, est-ce que c'est possible d'organiser l'éducation des enfants dans les camps des réfugiés?
Ça fait partie, effectivement, de nos priorités, de permettre aux enfants qu'ils puissent continuer leur éducation malgré le fait qu'ils soient réfugiés, malgré le fait qu'ils aient eu à fuir leur pays, à fuir la violence. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous organisons l'éducation primaire dans les camps de réfugiés. Donc, dans les camps de réfugiés, il y a des écoles primaires qui sont construites, qui sont mises en place pour permettre aux enfants de suivre leur éducation. Mmh. Les professeurs sont souvent des professeurs centrafricains, c'est-à-dire des réfugiés eux-mêmes, qui étaient des instituteurs dans leur pays et qui assurent donc l'enseignement dans les camps de réfugiés. C'est ce qui se passe actuellement dans les camps qui sont près de Zongo, Libengue ou Badolité. Donc ce sont des enseignants centrafricains qui assurent l'enseignement et qui suivent le cursus centrafricain.
Voilà. Donc il y a, on organise seulement des écoles primaires, il n'y a pas la maternelle, non, ou le secondaire?
Il y a des espaces pour enfants, effectivement, et il y a l'école primaire. Ensuite, un des défis auxquels nous faisons face, justement, dans les camps de réfugiés qui se trouvent dans le nord du pays, dans la province de l'Équateur, c'est aussi assurer une éducation pour les enfants qui sont plus âgés, mais aussi les étudiants. Beaucoup de jeunes qui ont fui Bangui étaient à l'école secondaire ou dans des instituts techniques ou à l'université. Ils ont dû fuir également leurs études et ils se retrouvent dans cette partie du Congo où ils n'ont pas accès à l'université. Donc ce que nous faisons en ce qui concerne les étudiants ou les élèves du secondaire, c'est que nous sommes en contact avec les écoles secondaires sur place pour pouvoir insérer ces élèves dans les écoles secondaires des villages alentours, les écoles secondaires congolaises. Maintenant, se pose encore le problème des étudiants. Comment les étudiants peuvent poursuivre leurs études? Et ça, c'est un grand défi.
Oui. Après, prenons par exemple les cas des réfugiés congolais qui étaient de l'autre côté au Congo-Brazzaville. Et c'était pareil, il y a eu des écoles qui ont fonctionné de la même façon.
Les réfugiés congolais qui étaient en République du Congo, vivaient dans deux types de situations. Certains étaient aussi dans un camp de réfugiés où il y avait les mêmes structures. Il y avait une école avec des enseignants congolais de la RDC, des réfugiés qui assuraient la formation.
La formation, oui.
Il y avait aussi beaucoup d'enfants qui étaient dans les familles d'accueil. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans le camp, mais qui vivaient avec la population du Congo-Brazzaville. Et ces enfants-là allaient dans les écoles congolaises sur place.
Oui. Alors, la grande question que l'on se pose, est-ce qu'on peut réussir l'éducation des enfants dans ces conditions, étant donné que ces enfants sont traumatisés par tout ce qu'ils ont vécu et ils vivent dans des conditions précaires? Est-ce que c'est possible de réussir l'éducation dans ces conditions-là?
Nous essayons avec nos partenaires de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les enfants puissent suivre leur éducation. Et vraiment, la priorité est continuer l'éducation primaire. Mais effectivement, comme vous le dites, des enfants qui ont fui des conflits peuvent avoir des traumatismes. Mais ces traumatismes, justement, peuvent être identifiés à l'école. Et nous travaillons avec des partenaires sur place, des partenaires qui s'occupent également du suivi, en fait, des problèmes que pourraient avoir les réfugiés. Et si des problèmes comme ça sont identifiés, nous pouvons ensuite y répondre et voir quel appui doit être apporté aux enfants pour qu'ils puissent sortir du traumatisme.
Voilà, donc vous travaillez avec des psychologues, hein, si on peut le dire ainsi.
Nos partenaires sociaux, si je peux dire, ont effectivement des agents sociaux qui peuvent, qui sont là pour voir si la vie se passe bien dans le camp, de manière générale, pour éviter les conflits. S'il y a des conflits, de voir quelle réponse peut être apportée. Et également, si des gens ont des problèmes particuliers, voir comment on peut les aider, quelle réponse peut être donnée. Il y a un centre de santé aussi dans le camp qui également est impliqué pour apporter une aide dans ce sens-là aux réfugiés.
Et l'horaire des cours, hein, se présente comment? C'est toujours le même horaire. Les enfants arrivent à l'école à 7h30 et puis ils sortent là à midi.
Oui, c'est cet horaire-là aussi. Et il y a beaucoup d'enfants dans les camps, donc il faut le dire. Pour l'instant, je donne par exemple un exemple. À Molé, il y a 630 enfants qui sont scolarisés à l'école primaire. Mais nous sommes en train d'étendre l'école parce que depuis le nouvel afflux de réfugiés depuis le 5 décembre, nous avons reçu à nouveau 600 élèves de plus pour l'école primaire. Donc nous sommes en train d'étendre l'école pour pouvoir accueillir également ces enfants.
Voilà, vous êtes en train d'étendre l'école pour accueillir les enfants. Bon, il y a aussi un problème au niveau du programme. Est-ce que ils suivent les programmes de formation de la RDC ou de la République centrafricaine?
Ils suivent les programmes de la République centrafricaine pour pouvoir ensuite, à leur retour, réintégrer l'école dans leur pays. Et c'est donc des professeurs centrafricains qui sont des réfugiés aussi, voilà, qui assurent l'enseignement dans ces écoles-là.
Et pour les jeunes du secondaire qui intègrent les écoles congolaises des environs?
Oui, effectivement, ces jeunes-là vont suivre le cursus congolais,
bien sûr.
Mais c'est une des solutions que nous avons trouvées sur place. Pour leur permettre de continuer leurs études, nous avons été en contact avec les écoles secondaires sur place pour voir dans quelle mesure ces écoles pouvaient les accueillir et comment le HCR pouvait appuyer cela.
Bien, nous avons un premier auditeur en ligne, il s'appelle Omar Kigalo, qui nous appelle de Kinshasa. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081 890 63 94.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage style papillon et j'en passe. Okapi Sport, un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Comment assurer l'éducation des jeunes, des enfants dans les camps des réfugiés? Omar Kigalo est à Kinshasa, Serge Kalobia nous appelle des Kindu au Manima. Omar, bonjour.
Bonjour, jeudi et bon début de la semaine à tous les auditeurs de la Radio Pacifique.
On vous écoute.
Merci, jeudi. J'ai quatre préoccupations puisque cette mission m'intéresse humanitaire de mon État. Première question, je voudrais savoir comment les HCR fait-il pour adapter l'enseignement des enfants réfugiés? Est-ce qu'on engage seulement des professeurs africains, ou s'il arrivait que ces professeurs sont absents, y a-t-il moyen de former les enseignants congolais au programme centrafricain? C'est ma première question. Deuxième question, il y a beaucoup d'interpérations et la population ne comprend pas le vrai rôle des différents organismes de l'ONU. Je voudrais savoir, dans le domaine de l'éducation, est-ce que l'UNICEF intervient aussi? Si tel est le cas, quelle est la démarcation des actions menées par l'UNICEF et celles menées par le HCR? Troisième question, dans le domaine d'alimentation de ces enfants, est-ce que le PAM intervient? Si le PAM intervient, quelles sont les limites de chacun? Le PAM intervient à quel niveau? Le HCR intervient à quel niveau? Parce que ce sont des domaines très techniques, il faut que la population connaisse le rôle de chacun. Quatrième question, pour finir, un enfant réfugié, comme le disait Freud, subit des traumatismes et l'instruction scolaire ne suffit pas pour l'adapter ou le réinsérer socialement. Encore faut-il des thérapeutiques psychologiques? Alors, je voudrais que l'invité, en tant qu'experte, nous dise quels sont les conseils qu'on peut donner à un tel enfant. Pourquoi je l'ai dit, même dans la ville de Kinshasa, nous avons des réfugiés centrafricains qui ont aussi des enfants. Mais ces enfants ont du mal à s'intégrer dans la société. En tant qu'experte, pouvait-elle nous dire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour aider les tels enfants si nous accueillons certains dans nos familles? Voilà mes quatre préoccupations aujourd'hui et je vous remercie.
Bien, merci Omar. Serge Kalobia, vous êtes à Kindou, bonjour. Quelle est votre question, Serge?
Oui, ma préoccupation, c'est là, vous êtes en train de parler de comment assurer l'éducation des enfants dans le cadre de l'éducation. Moi, j'ai un cas particulier par rapport à un enfant réfugié qui me transfère à lui à voir également de là. Je transfère à ramasser cet enfant.
Oui, Serge, on vous écoute presque pas. Parlez un peu plus fort.
Oui, je dis ceci. Nous avons un problème. Mon grand frère a ramassé un enfant réfugié à partir de Kalima. Maintenant, il est venu avec cet enfant ici à Kindou. Aujourd'hui, nous pouvons réaliser avec cet enfant 5 à 6 ans. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de pousser cet enfant d'aller à l'école. L'enfant ne veut pas. Et l'enfant se comporte vraiment à un enfant impossible dans la maison. Il y a des fois où il peut rester à la maison toute une journée sans parler, sans manger. Maintenant, je voudrais poser la question. Est-ce que nous pouvons faire, nous, la famille que nous avons adopté cet enfant, pour assurer évidemment l'éducation normale de cette fille?
L'enfant alors, oui, Serge, vous dites que votre grand frère a ramassé cet enfant à Kalima. Il l'a ramassé comment?
Bon, pendant la guerre, hein, le grand frère s'est retrouvé là-bas. Et après que la guerre est finie, l'enfant était seulement assez de partout. Maintenant, les grands frères ont haï. Et puis tout le monde disait qu'il n'y avait pas personne pour le garder.
Voilà, c'est un enfant, c'est un enfant centrafricain, c'est ça?
Bon. Maintenant, la nationalité, c'est un problème. Là, les grands pour l'éducation de cette fille-là.
Voilà, vous dites qu'elle est. Voilà. D'accord, on a compris. Oui, on a compris la nationalité. Vous dites qu'elle n'est pas très très bien connue, mais cet enfant ne veut pas aller à l'école. Il préfère rester à la maison. Alors, vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire avec un tel enfant. Alors, bien, on va y revenir dans quelques instants avec notre invité. Revenons d'abord au premier intervenant, Omar, qui dit est-ce que, par exemple, vous dites que vous avez dit tout à l'heure, Céline, que dans ces camps des réfugiés, les enfants, les enseignements sont donnés par des professeurs centrafricains. Alors, il dit est-ce qu'il y a aussi il est prévu également la formation des professeurs congolais qui peuvent donner ces enseignements à ces enfants-là, en suivant le programme centrafricain. Est-ce qu'il y a une telle possibilité?
En fait, dans les camps de réfugiés, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des enseignants, parce que les enseignants fuient aussi. Nous travaillons aussi avec les professeurs congolais, si effectivement il n'y a pas assez de professeurs, d'instituteurs centrafricains qui peuvent assurer l'enseignement.
Oui.
Bien sûr, nous travaillons avec des professeurs congolais. Mais dans ce cas-là, il y a assez de professeurs centrafricains qui peuvent assurer l'éducation aux enfants qui sont dans le camp.
D'accord. Il veut savoir, l'UNICEF, le HCR intervient, et l'UNICEF, alors quelle est il veut savoir quelle est la nature de son intervention, parce que c'est l'UNICEF qui est censé s'occuper de l'éducation.
Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'il parlait de notre auditeur parlait de l'UNICEF, mais aussi du PAM,
aussi.
C'est que nous travaillons en étroite collaboration. Le HCR, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, donc les réfugiés, c'est notre mandat. C'est pour ça que nous coordonnons toutes les actions et toute l'assistance qui est donnée aux réfugiés. Mais bien évidemment, nous travaillons avec d'autres acteurs. Nous travaillons avec l'UNICEF en ce qui concerne l'éducation et nous travaillons avec le PAM en ce qui concerne les vivres. Parce que c'est des experts dans ces domaines-là et donc nous travaillons ensemble. Mais nous ayons le mandat de protection et d'assistance des réfugiés, nous coordonnons en fait cette assistance et c'est nous qui gérons les camps de réfugiés et qui faisons en sorte que les réfugiés soient protégés mais aient aussi accès à l'assistance, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les vivres.
Bien. Alors, Omar qui a parlé aussi de Freud, qui a parlé des enfants traumatisés, et souvent leur éducation est difficile. Et Serge est revenu, a rebondi également sur le même problème. Un enfant que son grand frère avait pris à Kalima, et cet enfant ne veut pas aller à l'école, préfère rester à la maison. Sûrement, c'est un enfant traumatisé. Alors, dans ces conditions, comment aider un tel enfant?
Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que si la population, comme ça, effectivement, rencontre ou trouve un enfant réfugié, comme le disait notre auditeur, il est très important, en fait, de se mettre en contact avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou notre partenaire, la Commission nationale pour les réfugiés, pour que nous puissions faire des recherches aussi sur où sont ses parents.
Il ne faut pas les garder comme ça.
Où est sa famille. Parce que c'est ce que nous faisons aussi. Très souvent, dans les situations de conflit, de guerre, les familles sont séparées, les gens fuient séparément. Il y a la violence, chacun court de son côté. Nous recevons ce qu'on appelle des enfants non accompagnés, qui arrivent tout seuls, en fait, qui traversent la frontière, qui arrivent tout seuls.
Oui.
Ils ont besoin d'une assistance particulière, ils ont besoin d'être protégés. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisons des recherches pour essayer de trouver la famille. Est-ce que la famille a fui, mais est dans un autre endroit ? Si ce n'est pas le père ou la mère, il y a peut-être une tante, il y a peut-être un grand frère. Donc il est très important de signaler au HCR ou à la Commission nationale pour les réfugiés ce genre de situation pour que nous essayions de trouver des parents ou des membres de la famille.
Voilà, mais par rapport à cet enfant qui ne veut pas aller à l'école, c'est qu'il a des problèmes. Cet enfant est sûrement traumatisé.
Les enfants qui ont vécu des violences, effectivement, peuvent être traumatisés. Et là encore, il est important pour cela que les acteurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là puissent faire leur travail. Donc, comme je vous disais, on travaille avec des partenaires sociaux. Il y a des agents sociaux qui sont capables d'amener une aide, de voir quel est le problème des enfants et d'amener une aide. Et donc, il est très important que ces agents-là puissent faire leur travail pour aider ces enfants.
Voilà. C'est Oulungala Mouloumé, vous êtes à Kananga et à Aruna Sambia, nous appelle depuis Arou, en province orientale. C'est Oul, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Nkachama et aussi à notre invité, sans oublier toute l'équipe de Locatif Service. C'est où la partie des canards.
C'est où la rapidement, oui. Quelle est votre question rapidement,
oui.
Allez
vite. En rapport avec ce sujet, j'ai deux petites questions à poser à notre invité. La première, comment peut-on procéder pour sauver les enfants qui se trouvent dans cette situation? Et la seconde, est-ce que l'État congolais a-t-il prévu des mesures de grâce en faveur de ces enfants? De ces enfants réfugiés et réfugiés?
Quel genre, quel Séoul,
Séoul,
Séoul, quel type de mesures pour quel problème?
Pour sauver, pour bien encadrer ces enfants, pour assurer leur éducation. Y a-t-il des mesures que l'État a prévues?
Oui. Merci. Aruna, vous êtes à Arou. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est plutôt à Dungu, ce n'est pas à Arou.
Vous êtes plutôt à Dungu. Merci. En vous écoutant.
Oui, j'ai deux petites questions à poser à notre invité. La première est celle-ci. Comme elle a dit que les enfants réfugiés vont suivre le programme national centrafricain, et si et seulement si ces enfants faisaient plus de 10 ans, comment est-ce qu'ils vont évoluer avec leurs études ici sur place au Congo? Et la deuxième préoccupation est que nous sommes en train de voir comme quoi les enfants réfugiés sont pris en charge éducativement plus que les enfants congolais. Comment est-ce qu'elle peut nous expliquer?
Voilà, est-ce que vous avez des preuves, hein, Aruna?
Oui, parce que vous savez, les enfants réfugiés sont pris en charge complètement, les frais scolaires, les uniformes, les cahiers, les contributions, tout ça est pris par le HCR.
Voilà, bon, on va. Céline va répondre tout à l'heure. Ogi Bendelo, vous êtes à Kikuyi, bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité, bonjour à tous ceux qui sont branchés.
On vous écoute?
J'ai bien suivi notre invité, j'ai une simple question à poser à l'invité. Si par exemple les centrafricains ou les Rwandais sont réfugiés au Congo, et maintenant ce sont les professeurs congolais qui doivent accueillir ces enfants-là, parce que je dis, vous savez, j'ai été une fois chez les Tchokwe, et là-bas, les enfants dans l'école, à l'école primaire par exemple, étudient en Tchokwe. J'ai été dans le quartier occidental que les peines.
Mais Ogi, il y a beaucoup de bruit autour de vous là. On vous écoute. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui sont autour de vous calmer? Il est temps de poser votre question.
Aïe, aïe, aïe. Je dis s'il vous plaît, je suis au centre-ville, si vous pouvez supporter des bruits, mais.
Ben, allez-y. Bon. Allez-y, on vous écoute quand même.
Oui, je disais que j'ai été chez les Tchokwe, les enfants Tchokwe, à l'école primaire, étudiés en Tchokwe. J'ai été aussi toujours dans les quartiers occidentaux, chez les peines, les enfants à l'école primaire étudiés aussi en peine. Et maintenant, je voulais poser la question à notre invité, pour qu'elle puisse me préciser. Par exemple, si ce sont les enfants centrafricains qui sont réfugiés au Congo, est-ce que les enseignants congolais seront en mesure d'enseigner dans la langue que ces enfants-là puissent comprendre, parce que ce n'est pas que tous les enfants ont accès à entendre la langue française. C'était la ma seule question aujourd'hui, si je pourrais avoir des précisions auprès de notre invité.
Merci. D'accord. Merci, Ogui. Depuis Kikuit, revenons d'abord à la question de Séoul, de Kananga, qui veut savoir qu'est-ce que l'État a prévu. Bon, ça, je pense que Séoul... Céline, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que l'État a prévu pour l'encadrement des enfants réfugiés dans les camps? Est-ce qu'il y a un programme de l'État par rapport à cela?
Bon, je parlais tout à l'heure des partenariats que nous avons avec les autres agences des Nations Unies, mais peut-être qu'il faudrait commencer par le partenariat que nous avons avec le gouvernement congolais.
Oui.
Nous travaillons avec la Commission nationale pour les réfugiés. Donc c'est en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés que nous travaillons, et c'est eux qui s'occupent de ce qu'on appelle l'administration des camps de réfugiés.
Mmh.
Donc c'est en partenariat avec la Commission nationale pour les réfugiés que nous assurons la protection et l'assistance des réfugiés. Je parlais tout à l'heure de l'intégration d'enfants qui dans des écoles secondaires congolaises. Je pense qu'il faut souligner justement la solidarité de la population congolaise vis-à-vis des réfugiés pour leur permettre d'avoir accès aux écoles secondaires dans les villages environnants.
Voilà. Et il disait, Aruna de Dungu dit, si les enfants, par exemple, sont là dans les camps pendant plus de 10 ans, comment vont-ils évoluer dans leurs études, d'autant plus qu'ils doivent étudier, apprendre le programme centrafricain?
Alors, leur permettre de suivre le programme centrafricain est effectivement l'idéal. C'est possible dans des camps de réfugiés, quand il y a des professeurs sur place qui peuvent assurer l'enseignement suivant le cursus centrafricain. Bien évidemment, comme je le dis, c'est l'idéal et c'est surtout fait au niveau de l'enseignement primaire. Si l'exil se prolonge, effectivement, c'est compliqué. On rencontre des défis. Comme je vous le disais, la solution qu'on essaie de trouver pour les élèves du secondaire, c'est qu'ils puissent intégrer des écoles congolaises. Et ensuite, les défis sont énormes aussi pour les étudiants. Comment leur permettre de faire des études? Donc ce que nous faisons actuellement dans le camp de réfugiés, notamment de Molé, c'est que nous sommes en train de construire un cybercafé pour pouvoir aider les étudiants à avoir accès à l'information. Et ce qu'ils nous demandent aussi, c'est est-ce que vous pouvez nous aider à faire des formations à distance? Tout ça, c'est des projets que nous sommes en train de voir. Et nous sommes en train de voir justement aussi avec nos partenaires et la Commission nationale pour les réfugiés, comment pouvoir apporter une aide à ces étudiants aussi.
Oui, et Aaron a dit que les enfants dans les camps de réfugiés sont bien traités par l'UNICEF et les autres structures. Vous leur assurez les cahiers, vous payez leur minerval, plus que les enfants congolais, d'après lui.
Tout d'abord, ce que je voudrais rappeler à tout le monde, c'est que ce n'est pas facile d'être un réfugié. C'est des personnes qui ont fui la violence, des enfants qui sont traumatisés. Et l'assistance qu'ils reçoivent...
Qui vivent presque dans la précarité. Hein.
En matière d'éducation primaire, est vraiment une assistance de base. Et j'invite l'auditeur à peut-être vouloir voir comment ça se passe. Mais nous rencontrons des défis. Comme je vous le disais, pour l'instant, dans le camp de réfugiés de Molé, on a une école pour 600 enfants, alors qu'il y en a 1200. Les enfants sont très nombreux dans les écoles.
Oui. On ne peut pas les recevoir tous au même moment.
Exactement. Il faut beaucoup de moyens. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont dans une meilleure situation que les enfants congolais.
Oui. Ogui Bendelo dit, il revient à la langue. Quelle est la langue de l'enseignement dans ces écoles primaires? C'est en français ou en langue locale, centrafricain?
Alors, encore une fois... je veux répéter que voilà, c'est l'idéal de pouvoir suivre le cursus du pays d'où viennent les enfants réfugiés. Dans des camps de réfugiés, c'est possible. L'enseignement, par exemple, se fait en français dans les camps de réfugiés pour les réfugiés centrafricains. Mais dans d'autres situations, et notamment des situations où il n'y a pas de camp de réfugiés, mais où les enfants sont avec des familles d'accueil, vivent avec la population, les enfants vont très souvent dans les écoles congolaises.
Voilà, ils vont dans des écoles congolaises où on enseigne, les enseignants se donnent également en français. Watson Mukena nous appelle de Colésie et Franck Kitoko de Kananga. Watson, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Je je remercie d'abord la RCL ici à Bruxelles et qui est en train de vous aider et qui vous aide. J'ai deux petites questions et je voudrais savoir si par exemple dans les camps des réfugiés et qu'il y a un enfant réfugié des, par exemple des violines qui sont volées, quelle serait la réaction? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a...
Watson, oui, vous dites que dans... Watson, pardon, vous dites que dans les camps des réfugiés, un enfant centrafricain de 12 ans viole une fille congolaise, c'est ça?
Oui, viole une fille congolaise. Mais... Alors, par exemple, ces réfugiés, ces enfants réfugiés qui sont là-bas, un enfant, par exemple, un homme, viole une fille congolaise. Quelle serait la réaction des
Mais Watson, ça n'a rien à voir. C'est vraiment hors sujet. Ça n'a rien à voir avec le thème abordé aujourd'hui. On parle de l'éducation. Comment assurer l'éducation des enfants? Ça, c'est un autre cas, hein, un autre sujet, Watson.
Bon, pas de problème. La deuxième question que je voudrais poser.
Oui.
Est-ce qu'un enfant réfugié peut-il circuler librement dans le pays où il est réfugié?
Circuler librement.
Oui.
Merci. Franck Kitoko de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Alors, nous parlons de l'éducation des jeunes dans les camps des réfugiés. Une question par rapport à ce thème?
D'accord. C'est juste une préoccupation qui est tellement majeure chez nous ici. Nous demandons à l'invité s'il peut nous donner des processus à suivre si nous recevons, en titre exemplatif, un réfugié la nuit. Il vient frapper à la porte, on l'ouvre. Il entre. À ce moment-là, quel processus nous pouvons utiliser pour mettre déjà à la connaissance de l'État que nous sommes déjà en réception d'un réfugié, pourvu que l'État puisse en prendre?
Bien, Céline Smith.
Merci.
Alors, tout d'abord, je voudrais répondre à la première question pour dire que les réfugiés ont des droits, mais aussi des devoirs. Et donc, les réfugiés qui sont sur le sol congolais doivent respecter la loi congolaise. Et si la loi n'est pas respectée, s'il y a des infractions, les procédures sont les mêmes que pour les citoyens congolais. Et c'est justement le rôle de la Commission nationale pour les réfugiés qui, dès l'arrivée des réfugiés dans les camps, leur explique quelles sont les règles de vie, en fait, en RDC, en disant qu'ils sont soumis également à la loi congolaise.
D'accord.
Donc je pense que ça, c'est très important à dire. Les réfugiés ont des droits, mais aussi des devoirs.
Est-ce qu'ils peuvent circuler librement dans la ville? Après l'école, les enfants peuvent aller s'amuser dans la ville, en dehors du camp? C'est une autre question de Watson.
Il n'y a pas de restriction de circulation pour les réfugiés.
Pour les réfugiés. D'accord. Et puis, Franck Kitoko qui dit, vous avez dit tout à l'heure que lorsque c'était par rapport à la question d'un auditeur de Kindu qui dit, son grand frère avait pris un enfant à Kalima et l'a amené à la maison, l'enfant ne veut pas aller à l'école. Et il veut savoir, lorsqu'il y a un enfant, il reçoit un enfant directement ou comment la procédure à suivre pour informer le ACR.
Donc, effectivement, comme je disais, il est vraiment très important d'informer la Commission nationale pour les réfugiés ou le HCR. Si ces organisations ne sont pas sur place, il faut aller voir les autorités locales, en fait, qui peuvent se mettre en contact avec la Commission nationale pour les réfugiés, les informer qu'il y a des cas, pour que la CNR ensuite puisse intervenir.
Voilà. Donc on retient qu'il est possible d'assurer l'éducation des enfants dans les camps des réfugiés, juste le temps quand la situation se calme de l'autre côté et qu'ils rentrent dans leur pays. Alors on peut dire aussi que c'est le HCR qui se charge d'assurer les kits, les cahiers, de fournir les stylos et autres, les cartables.
Pour cela, nous travaillons avec l'UNICEF. Et c'est l'UNICEF qui prend en charge les kits scolaires.
Mais on retient que les besoins sont vraiment énormes. Il y a beaucoup plus d'enfants prévus que les moyens qui sont prévus. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. C'est Lynn Smith. Je rappelle que vous êtes porte-parole du HCR en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ces thèmes, l'éducation des enfants dans les camps de réfugiés. Et à la prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.